Bon, dans le contrat social, il y a une clause qui prévoit que le 11 décembre, on peut annuler le contrat.
Oui, voilà. On entre, Paul, je dirais, dans une autre phase décisive du combat contre la COVID. J'ai l'impression qu'on a eu que ça, des phases décisives. Mais en tout cas, ce qui est clair, là, c'est que on va savoir le 11, là, si les rassemblements de Noël sont annulés. Honnêtement, Paul, si la tendance se maintient, comme aurait dit Bernard Derome, François Legault va les annuler. C'est vers ça qu'il nous amène, tranquillement, pas vite. Hein. Je t'en avais parlé la semaine passée, puis c'est clair là, qu'à moins d'un revirement vraiment de dernière minute, là, il n'y en aura pas de rassemblement à Noël là, qui seront permis par le gouvernement. Là, à 9h30, Geneviève Guilbeault va annoncer là, qu'elle limite la capacité d'accueil des commerces. Et elle va annoncer aussi une présence accrue de la police et des inspecteurs de la CNESST dans les centres d'achat. Donc, 9h30, va nous annoncer ça. Plus de policiers,
les grandes
plus
surfaces aussi. Là, on peut penser à Costco, on peut penser à, je sais pas, Canadian Tire. Là.
C'est ça. Alors, elle va limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans le commerce. Alors, on verra bien le détail de tout cela. Mais ce dont je voulais te parler, moi, Paul, ce matin, là...
C'est parce que, sais-tu quoi, oui, deux choses très rapides. La première, là, hier, au point de presse, ils ont dit qu'il n'y avait pas vraiment de cas d'éclosion reliés à des activités de magasinage. Ça, parce que des gens, je sais, qui disent « ça n'a pas d'allure, on ne peut pas aller au gym, en même temps, le centre commercial déborde ». Remarquez qu'il n'y a pas eu nécessairement plus de cas dans les gyms non plus, là.
Oui, mais là, je pense qu'ils veulent prévenir. Là. Ils savent qu'avec les achats de Noël, le volume va augmenter.
Là, c'est sûr. Là. Hein? C'est sûr que les gens vont y aller. L'autre chose que moi, j'ai de la misère à comprendre, là.
Ouais.
C'est-tu bien important qu'il y ait un Boxing Day cette année, un? Puis, faut-tu le faire commencer à 10 heures le matin?
La question lui sera posée ce matin.
Parce qu'habituellement, c'est 13 heures. Puis là, on a devancé ça à 10 heures, supposément pour étaler l'arrivée des clients. C'est tout mon avis, là, on va juste devancer. Ceux qui veulent aller au Boxing Day pour les spéciaux, ils se garochent à l'ouverture. Ils vont être là à 10 heures.
C'est fort possible. C'est fort possible. Il y en a qui
couchent. À part d'écœurer les employés, là.
Il y en a qui couchent quasiment dehors pour être les premiers arrivés. Alors, j'allais te dire que moi, là, ce que je voudrais qu'on fasse, là, c'est se poser la question collectivement. Prenons pour acquis là, que les rassemblements de Noël vont être annulés. Là. Les probabilités, mettons, sont très, très, très élevées. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser à partir de maintenant, Paul, c'est qu'est-ce qu'on fait pour amortir le choc psychologique?
De Noël?
Le fait que ça va être annulé, le fait que tu as beaucoup de grands-parents qui ne verront pas leurs petits-enfants. Moi, écoute, la famille n'a plus l'importance qu'elle avait auparavant, là, mais elle reste encore très importante pour beaucoup, beaucoup de Québécois. Et puis, ce qu'on a beaucoup entendu pendant la première vague, Paul, c'est à quel point les grands-parents trouvaient ça extrêmement difficile de ne pas pouvoir serrer dans leurs bras leurs petits-enfants, de ne pas pouvoir recevoir cet amour-là et tout ça. Et je lance ça à la cantonade ce matin, là, mais je pense qu'il faut se préparer collectivement à une espèce de grande opération de corvée, une corvée solidarité. Je ne sais pas trop quelle forme ça pourrait prendre, là, mais on a beaucoup, beaucoup de gens qui déjà vivent beaucoup de solitude et d'isolement pendant le temps des fêtes. Ça va être encore bien pire cette année. Nonobstant la décision du gouvernement, je veux dire, il y a déjà plein de familles qui se sont organisées, là, puis les premiers à payer pour ça, ça va être les grands-parents, les personnes aînées. Il me semble qu'on devrait, là, on est bon là-dedans, les Québécois, là, quand on décide de se mettre à la gang, là, on devrait essayer de trouver une manière de faire en sorte qu'on en échappe le moins possible. Assurer une présence auprès des personnes aînées, est-ce que c'est une espèce de chaîne humaine, une espèce de chaîne d'appel? Je ne sais pas s'il y a moyen. On a des organismes communautaires très présents un peu partout sur le territoire. Je sais. Tu sais, Paul, on va être à maison, là. Pour plusieurs d'entre nous, là. On ne sera pas sur la route. On se promènera pas d'une maison à l'autre, là. Y aurait-tu moyen d'identifier les personnes qui sont seules? Pas juste les personnes de notre entourage, les personnes qui sont seules. Puis, je ne sais pas trop comment. Il y en a beaucoup qui, évidemment, chez les personnes âgées qui n'utilisent pas l'ordinateur, y a-tu moyen d'avoir, d'être capable de les appeler? Y a-tu moyen de leur parler? Est-ce qu'on pourrait se donner comme mandat d'appeler une personne, deux personnes? Tu sais, donne-moi de tes nouvelles. L'opération, je prends de tes nouvelles. Appelle ça comme tu voudras, Paul, mais qu'on se serre les coudes puis qu'on se donne une espèce de filet de solidarité pour faire en sorte qu'on en échappe le moins possible. Parce que je te le dis, moi, je crains beaucoup le poids, le tribut psychologique.
De l'isolement,
de cette solitude-là. Puis là, il nous reste, là, tu sais, on a encore une vingtaine de jours jusqu'à Noël. Là. Je lance ça comme ça, Paul. C'est une réflexion.
Mais c'est correct, c'est-à-dire, c'est un rappel. C'est-tu quoi? Fait penser un peu à ce que Régine Laurent disait au sujet de la DPJ en disant, c'est pas au gouvernement seul de prendre le flambeau et de la protection des enfants.
Ça prend un village, hein? Ouais. Tu sais, ça prend un village pour élever
moi,
un
j'attends
enfant,
pas là. Une directive du gouvernement. Tu sais, tu me connais là-dessus, là, oui. Depuis quelques jours, là. Oui. Ça me prend pas une directive pour dire, ça serait peut-être bien que j'appelle mon frère, ma sœur. Tu comprends? Des gens de mon entourage.
On pourrait être raison, on pourrait identifier ben, des
c'est
personnes.
C'est parce que le goût de sa stratégie, là, ouais. Comme on dit, on la voit venir comme un train. Là. Ouais. Il dit aux Québécois, la décision, c'est le 11. Dans le fond, il dit quoi? Je vais tout faire, j'ai tout fait, mais malheureusement, je peux pas. Tu sais, je veux pas clair. Vous le dire d'avant. Je vous amène à la porte pour montrer, là, tu sais, je suis allé à l'extérieur.
J'ai tout essayé pour préserver les fêtes.
Ça marche pas. Bon.
C'est ça.
Fait que, puis l'autre chose, en même temps, hier, Christian Dubé nous explique que dans les résidences de personnes âgées, les RPA, là, ça devient préoccupant. Fait que là, imagine-toi Noël, là, où si tu pars d'une RPA pour aller visiter dans la famille, où la famille vient... Tu comprends-tu, là?
Non, c'est sûr. C'est
l'effet
sûr
que ça va avoir après.
Les risques.
Ben, les risques, c'est ça.
Bon. Fait que... mais je trouve, c'est intéressant d'identifier autour de nous des personnes qui ne font pas partie de la parenté, qu'on n'aurait pas vues nécessairement pendant les fêtes, de les identifier, puis de se donner comme mandat d'en appeler un certain nombre d'entre elles. Ils vont être les premiers surpris. Ça va peut-être être le premier appel qu'ils vont avoir, le seul appel qu'ils vont avoir, la seule discussion. Comment vous allez, madame une telle?
Mais l'autre chose t'sais? Aussi, t'sais, pour être très franc, là, pis ça dépend des gens, là. OK, mais Noël, là, t'sais, c'est pas la fin du monde. Là. Le mois de janvier arrive, le vaccin va finir par...
Bon, c'est l'autre affaire.
T'sais, c'est pas là, comme si t'avais un tunnel bouché, puis fait noir, puis...
Ben là, la lumière, c'est le vaccin, là.
OK, mais ça va prendre du temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir, t'sais, passer cette période-là. T'sais, comme m'écrivait un auditeur, là, moi, il dit, je suis un fan de Noël, puis je fais des gros sapins, puis des parties d'habitude. Cette année, là, c'est correct, là, j'assume ça de ne pas avoir ces festivités-là, en me disant, ça viendra plus tard, puis je verrai mes petits-enfants un peu plus tard.
Oui, mais oui, c'est tout ce que tu dis est vrai, Paul, mais pour les personnes aînées, eux autres, ils en ont besoin. Fait que essayons, voyons comment on pourrait se débrouiller pour apporter un peu d'amour, puis pour que nos personnes aînées, puis nos personnes aînées, nos grands-parents, mais même ceux qui ne sont pas des grands-parents, qui sont seuls, qu'ils aient un petit peu d'amour.
Et le Québec qui fait aussi un pas supplémentaire vers l'autonomie alimentaire.
Oui, c'est ça. Alors, je vais vous parler vite là, de fruits, de légumes produits en serre au Québec. On a 900 producteurs. Séricoles au Québec, Paul, là, qui produisent des légumes, tu sais, des tomates, des concombres, des poivrons, qui produisent des fleurs, les fleurs qu'on plante l'été, là.
Du cannabis
aussi. Et des plantes ornementales, là, les plantes de nos jardins, les plantes de nos plates-bandes. Bon. Alors là, je ne sais pas si tu savais ça, mais sur les 900 producteurs séricoles, il y en a seulement une quinzaine qui ont droit à un tarif préférentiel d'hydroélectricité. Bon. De 5,5 cents le kilowatt. Et hier, la régie de l'énergie a annoncé que les 900 producteurs y auraient droit, y compris les producteurs de cannabis, tu as raison de le dire, sauf que pour les producteurs de cannabis, ce serait temporaire. Une fois que les surplus d'hydro seraient écoulés, ils n'auraient plus droit à ce tarif préférentiel. Puis là, je vous le rappelle, l'objectif d'André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, c'est de doubler le volume des aliments produits en serre d'ici 5 ans. Et ça, se servir de ça, là, pour augmenter notre souveraineté alimentaire. Actuellement, là, on produit à peu près la moitié de ce qu'on mange. Fait qu'on importe le reste. Et lui, il veut faire augmenter notre souveraineté alimentaire de 51 à 56 %, notamment en augmentant notre production en serre, pendant l'hiver notamment. Mmh. Fait qu'il a mis, il a annoncé toutes sortes de programmes, notamment un programme de 100 millions pour aider les producteurs en serre à moderniser leur installation et tout le reste. Et puis, moi, je vais te dire, Paul, là, André Lamontagne, ça avait mal commencé son affaire avec l'histoire de l'agronome Louis Robert, là. Ouais. Je vais te dire, il s'est replacé sur un méchant temps. Il travaille systématiquement, il fait ses annonces les unes après les autres, il est solide, il ne fait pas d'erreur, il y a une bonne équipe autour de lui. Je vais te dire, je le trouve pas mal bon. Il a fait d'autres annonces aussi. Il est fiable, il est solide. Honnêtement, là, c'est en train de devenir un très, très bon ministre de l'Agriculture. Il faut le souligner une fois de temps en temps.
Il était temps qu'on bouge sur ces questions-là.
Vraiment.
Moi, les discussions que j'ai eues avec les dirigeants d'Hydro-Québec en tant que vous attendez pour aider les producteurs de serre. Pierre Curzi a eu une serre à un moment donné. Là.
Oui.
C'est l'énergie qui est le facteur le plus important dans les coûts. Et puis on le voit, là, l'hiver, les produits qui arrivent de l'étranger.
C'est un bon point. Ça représenterait là, pour une serre de 2000 mètres carrés, ta facture d'hydroélectricité passerait de 75 à 45 000 $ par année. C'est une économie de 30 000 $ par année, le tarif préférentiel.
Ça paraît. Merci. 7h13. Allons-y avec la métropolitaine.